Dieu vit que c'était bon, et il les bénit, en disant « Reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez les mers, et que les oiseaux se multiplient sur la terre. » Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le cinquième jour. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants, selon leur espèce, du bétail, des reptiles, des animaux terrestres selon leur espèce, et cela se passa ainsi. Dieu fit les animaux terrestres selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tout le reptile de la terre selon leur espèce. Dieu vit que c'était bon. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et il leur dit, reproduisez-vous, soyez, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se déplace sur la terre. Dieu dit aussi, je vous donne toute herbe à graines sur toute la surface de la terre ainsi que tout arbre portant des fruits avec pépins ou noyaux, ce sera votre nourriture. À tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, à tout ce qui déplace sur la terre, à ce qui est animé de la vie, je donne toute herbe verte comme nourriture. Et cela se passa ainsi. Dieu regarda tout ce qu'il avait fait. Il constata que c'était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le sixième jour. C'est ainsi que furent terminés le ciel et la terre et toute leur armée. Le septième jour, Dieu mit un terme à son travail de création. Il se reposa de toute son activité le septième jour. Dieu bénit le septième jour, il en fit un jour saint, parce que ce jour-là, il se reposa de toute son activité, de tout ce qu'il avait créé. Ce chapitre de la Bible, à lui tout seul, a fait couler au fil des siècles beaucoup d'encre et beaucoup de salive. Beaucoup de gens se sont exprimés sur ce passage, chacun donne un peu sa façon de le comprendre. Et puis pendant longtemps, on a pris les jours de la création au sens littéral, comme ils étaient marqués, sans se poser plus de questions. Et puis, un jour, au fil du temps, on a vu apparaître, en dehors des milieux chrétiens, on a vu apparaître des sciences, l'archéologie, la paléontologie, la géologie, l'astronomie, la physique. Toutes ces sciences sont apparues en tant que pensées indépendantes de la Bible et elles se sont mises à critiquer le texte biblique en proposant d'autres compréhensions de l'origine de la Terre. Et ces sciences ont proposé avec beaucoup de prétention leur vérité. À ce propos, j'ai entendu à la radio, il n'y a pas très longtemps, une paléobiologiste qui déclarait, je cite, « On ne souligne pas assez que la vérité scientifique est une notion éphémère. Ce qui est présenté comme la vérité aujourd'hui sera caduque demain. Cela devrait nous rendre modestes, nous les scientifiques, et non pas arrogants. » C'est pas moi qui le dis, hein, c'est une scientifique. Mais même quand on prend avec précaution tout ce que la science a découvert, beaucoup de chrétiens ont été ébranlés et considère que les six jours de la création n'apparaissent plus comme une vérité scientifique. D'autant plus que, au milieu même des chrétiens, de plus en plus de voix se sont élevées pour critiquer le texte biblique. Ce sont les mouvements qu'on appelle libéraux, pour qui la Bible est une compilation d'écrits humains ou des hommes pleins de bonne volonté, mais pas infaillibles, ont écrit ce qu'ils pensaient être la vérité. Dans ces milieux, on essaie de déterminer ce qui, dans la Bible, est parole de Dieu et ce qui ne l'est pas. Inutile de dire que lorsqu'on se met à trier ainsi dans la parole de Dieu, chacun le fait à sa convenance. Et on peut ainsi s'accommoder à la dernière mode. Et puis, même chez les chrétiens qui prennent au sérieux le texte biblique, ce que les moqueurs appellent des fondamentalistes, et nous en sommes, nous sommes l'objet de colibés de la part de d'autres courants de pensée, même cela, on s'aperçoit en scrutant le texte que Dieu même n'a pas voulu nous donner un texte scientifique, mais qu'un poème, et qu'il nous décrit comment s'est passée la création, mais pas dans un ordre chronologique, mais dans un sens théologique. Il veut nous enseigner pourquoi Dieu a créé. Alors, nous avons vu vendredi soir, avec les jeunes, les différentes options, comment on pouvait comprendre. Ce n'est pas aujourd'hui là-dessus que je veux vous entraîner, mais simplement sur cette question. Que signifie au minimum, c'est-à-dire acceptable par tous les chrétiens, quelle que soit la compréhension qu'on a des six jours de la création, que signifie Genèse 1 pour que le reste de la Bible ait un sens ? Parce que tout le reste de la Bible va s'appuyer sur ce que sur la création de Dieu et sur ce que nous enseigne Genèse 1. Et notamment, qui est Dieu ? Pourquoi la création ? Qu'est-ce qu'un être humain ? Qu'est-ce que le bien ? Et aujourd'hui, j'aimerais voir le début de ces questions. Qui est Dieu, d'après ce texte ? Tout simplement, Dieu est. Ce texte ne nous donne aucune explication pour nous prouver l'existence de Dieu. Il nous dit simplement qu'il est là. Et qu'il existe tellement qu'il existe alors que rien d'autre existe. Il est là avant tout, avant la matière, avant la lumière, avant que quoi que ce soit d'autre existe. Les hommes qui essaient de réfléchir à l'existence de Dieu, ils essaient de réfléchir à partir de ce qu'ils connaissent déjà. Ils pèsent le pour, ils pèsent le contre, voilà. Et finalement, ils s'érigent en juge de Dieu. Depuis Descartes, on dit « je pense, donc je suis ». C'est bien, vous suivez. Et quand on a dit ça, on est enflé d'orgueil. « Je pense, donc je suis, c'est moi ». La Bible nous dit plutôt « Dieu pense, donc tu es ». C'est lui qui a l'initiative. On peut même dire que Dieu est le seul être qui existe vraiment, puisque tous les autres, et nous compris, nous ne sommes que des créatures, nous ne sommes là que parce qu'il l'a voulu. Et notre monde aussi, c'est ce que dit le psaume 90. « Avant que les montagnes soient nées, que tu aies donné un commencement à la terre et au monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. » Et vous vous souvenez ? Comment est-ce que Dieu s'est présenté à Moïse ? Moïse va demander à Dieu, mais dis-moi quel est ton nom ? Et que lui répond Dieu ? Je suis. Et c'est, si vous réfléchissez bien, c'est le seul qui peut dire ça. Je suis. Parce que quand je dis « je suis moi », ben oui, je suis temporairement, je suis là. Demain, je serai ailleurs, et puis après-demain, je serai mort. Ou je ne serai plus. Mais Dieu dit « je suis ». Je suis avant, je suis maintenant, et je suis toujours. Dieu est. Et Dieu a créé tout ce qui n'est pas lui, tout ce qui n'est pas Dieu. Il a créé tout le reste. Et ça entraîne une différence nette entre le Créateur et la créature. Nous devons donc reconnaître que Dieu a une place à part et que personne ne peut prendre. C'est pour ça qu'il est grave de confondre la création et le créateur. C'est ce que la Bible appelle l'idolâtrie. Paul dit, chapitre 1er de l'Épître aux Romains, « Ils ont délibérément échangé la vérité concernant Dieu contre le mensonge. Ils ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur. » Et toujours le même Paul, dans le livre des Actes, explique aux Athéniens, il dit que Dieu a créé l'univers et tout ce qui s'y trouve, il est le Seigneur du ciel et de la terre, il n'habite pas dans des temples bâtis de la main des hommes, il n'a pas besoin d'être servi par des mains humaines, comme s'il lui manquait quelque chose. Au contraire, c'est lui qui donne à tous les êtres la vie, le souffle et toute chose. Deuxième point, puisque Dieu nous a créés, nous lui appartenons et nous avons des comptes à lui rendre, même si ça ne nous plaît pas, même si on aimerait autre chose. Il est légitime que le constructeur soit aussi le souverain, celui qui dicte sa loi et à qui nous devions obéir. Si un jour vous construisez, je ne sais pas, un automate, vous vous attendez à ce qu'il vous obéisse, à ce qu'il fasse ce que vous avez demandé. Sinon, vous le détruisez, vous faites autre chose. Ésaïe 45 dit « Malheur à qui conteste avec son Créateur. Qui es-tu de plus qu'un pot de terre parmi d'autres pots de terre ?» L'argile dira-t-elle à celui qui la forme, qui es-tu en train de faire? Ou l'œuvre dira-t-elle à son potier, tu n'es qu'un maladroit? Malheur à celui qui dit à son père, qu'as-tu engendré là? Ou bien à une femme, qu'as-tu donc mis au monde? Ainsi dit l'Éternel, le Saint d'Israël, celui qui t'a façonné, oserez-vous me questionner sur ce qui doit venir ou me donnerez-vous des ordres au sujet de mes fils et au sujet de l'œuvre que mes mains ont créée? C'est moi qui ai fait le ciel et la terre. Et sur elle, j'ai créé l'homme. C'est moi, ce sont mes mains qui ont tendu le ciel. Je donne des ordres à toute mon armée. Même si ça ne nous plaît pas, nous appartenons à Dieu et nous lui devons obéissance. Autre point, il n'y a qu'un seul Dieu. Tout ce passage nous montre un seul Dieu qui décide, qui parle, qui juge que c'est bon. Et dans la suite du texte, cette idée du Dieu unique revient régulièrement. Le texte que récitaient les Juifs avec respect, c'est celui de Deutéronome 6, verset 4. « Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, l'Éternel est un. » La traduction Tob nous dit « Écoute, Israël, le Seigneur, notre Dieu, est le Seigneur un. » Et cette idée d'un Dieu unique est martelé, puisque c'est le principal reproche que Dieu va faire au peuple juif tout au long de l'histoire, c'est d'adorer d'autres divinités. Déjà dans les 10 commandements, il y a « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras pas de statue, pas de représentation. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. » Il n'y a qu'un seul Dieu. Et pourtant, en plus, et c'est là où ça devient compliqué pour nos petites têtes, ce Dieu est pluriel. Dès le début, Dieu emploie un mot pluriel pour son nom. Les petites choses que vous voyez là, ce n'est pas du chinois. C'est de l'hébreu. Alors, je ne suis pas très calé, je ne suis même pas calé du tout. Hein. Tout ce que je vous dis, je ne fais que le répéter, ce que d'autres ont dit avant moi. Ça se lit Bereshit, Bara, Elohim. Au commencement, créa Dieu. En français, au commencement, Dieu créa. Voilà. Sauf que Elohim, c'est un pluriel. On pourrait mettre les dieux. Et le verbe, bara, c'est un singulier. Donc si on traduisait très littéralement, on devrait traduire au commencement, les dieux créa. Ce qui est une impossibilité grammaticale. Et puis un peu plus loin, vous l'avez lu au verset 26, Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Il y a ce pluriel un peu curieux, faisons l'homme. Et puis dès le verset 2, on a la mention de l'Esprit de Dieu qui plane au-dessus des eaux. Et puis au verset 3, et puis sur tout notre texte, Dieu dit. À quoi ça sert de parler quand on est tout seul ? Ce texte ne nous permet pas de conclure, mais il nous donne des indices qui, dans la suite de la Bible, nous permettra de voir que Dieu a une personnalité en plusieurs personnes, que Dieu est un être riche qui, même si on a un seul Dieu, ce seul Dieu se présente à nous sous une forme plurielle. Et on verra aussi que quand Dieu dit, c'est par sa parole qu'il crée. Et l'apôtre Jean et d'autres auteurs aussi du Nouveau Testament identifiera cette parole à ce Fils de Dieu qui s'est incarné dans la personne de Jésus-Christ. Là, on est aux confins de ce que nous, on peut comprendre. Mais c'est un peu normal. Si je pouvais comprendre entièrement Dieu, je serais Dieu. Il est tellement plus grand, tellement plus puissant, tellement plus riche que ma petite tête. Et puis Dieu est un Dieu qui parle. Dieu dit que la lumière soit. Donc il parle. Nous avons vu que, non de voir que s'il est un Dieu en trois personnes, il se parle. C'est un Dieu relationnel. C'est important. Ça a l'air de rien. Mais quand j'étais étudiant, dans les locaux de la fac de médecine, je représentais le groupe biblique universitaire et on avait des gens qui passaient et, disons-le carrément, qui se moquaient de nous. C'est souvent que les gens se moquent des chrétiens. Autant vous en prendre votre parti tout de suite. Et il nous disait, entre autres, il dit, mais pourquoi est-ce que Dieu a créé l'homme ? Enfin, pourquoi est-ce qu'il a créé déjà la terre et pourquoi est-ce qu'il a créé l'homme ? S'il l'a fait, c'est parce qu'il avait un besoin. Donc si Dieu a un besoin, c'est qu'il n'est pas parfait. Il était tout seul, alors il avait besoin de quelqu'un à qui parler. Mais non, il n'était pas tout seul. Il n'était pas tout seul puisqu'ils étaient trois. Trois personnes divines. Il n'avait pas de besoin à combler. La Bible ne nous dit pas pourquoi il nous a créés. En tout cas, pas parce qu'il avait un besoin à combler. Il n'a besoin de rien. Il est Dieu. Il ne lui fallait pas absolument un interlocuteur comme quelqu'un qui vivrait dans la solitude depuis des mois et des mois et qui... souhaiterait avec beaucoup au plus profond de lui-même, trouver n'importe qui pour avoir un vis-à-vis, quelqu'un à qui parler. Dieu n'en était pas là. Il n'a pas besoin de l'homme. La création n'est pas là pour combler un manque. Quand on regarde les récits hors de la Bible, parce que vous savez que les civilisations de l'Antiquité, elles ont produit des récits de la création. Et certains de ces récits ressemblent un peu à la Bible. Mais il y a toujours une raison qui est donnée. Pourquoi est-ce que les dieux, parce qu'en général c'est une mythologie, il y a plusieurs dieux, pourquoi est-ce que les dieux ont créé les hommes? Souvent c'est parce qu'ils avaient besoin de serviteurs. Ils les ont créés pour faire le ménage. Entre nous soit dit, ça n'a pas été une réussite, hein, parce qu'on n'a pas, on ne sait pas bien tenir notre terre propre. Mais la Bible ne nous donne rien, aucune piste. Dieu n'a pas besoin de nous. Dieu est donc un Dieu qui parle. Et il l'a parlé pour la création, et il parle aussi à ses créatures. On voit que, dans le texte que nous avons lu, il commence à parler aux poissons, aux oiseaux, aux animaux, mais surtout il parle à l'homme et à la femme, et il leur donne une mission. C'est pas donc simplement un principe créateur, une force cosmique abstraite, c'est quelqu'un qui se révèle par des paroles compréhensibles. Et cette façon de faire va revenir dans toute la Bible. Dieu va se révéler, Dieu va parler. Aussi grand et au-dessus de nous qu'il est, Dieu est un Dieu qui se révèle et qui parle. Et non seulement il parle, mais il entend. C'est ce que dit le psaume 116. J'aime l'Éternel car il entend ma voix. Nous avons un Dieu de conversation. Et puis c'est un Dieu qui crée des choses très bonnes. Dans ce passage, il n'est pas question de méchanceté, de haine, de destruction, d'orgueil. Dieu évalue tout ce qu'il fait. Hein? On a l'impression, je ne sais pas si vous avez vu à la lecture, que de temps en temps, Dieu s'arrête, et il fait un audit. Dieu vit que c'était bon. Et puis, du coup, il continue. Il évalue sa propre création. Et l'apôtre Paul dira à Timothée, « Tout ce que Dieu a créé est bon, rien n'est à rejeter, pourvu qu'on remercie Dieu en le prenant, car tout ce qu'il a créé est saint lorsqu'on l'utilise conformément à sa parole et avec prière. » On sait malheureusement que lorsqu'on tourne les pages de notre Bible et qu'on arrive au troisième chapitre de la Genèse, le mal arrive, le péché, et tout ça par la faute des hommes et des femmes, de l'homme et de la femme. Mais la bonté complète, la pureté complète est possible puisque Jésus a pu les porter. En Jésus, il n'y avait pas de faute. Tout était parfait. Et puis lorsque Dieu arrive à la fin de sa création, il s'arrête. Il ne crée plus, il se repose. Bon, je ne pense pas qu'il se repose parce qu'il était fatigué. Il se repose parce que c'était fini, sa création. Et depuis, il ne crée plus, dans le sens qu'il ne bouleverse plus la création. Mais ça ne l'empêche pas d'œuvrer dans sa création, de travailler. C'est ce que dit Jésus en Jean 5, verset 17. Il dit « Mon Père travaille, bien qu'il soit dans son jour de repos. » Et la création qu'il fait maintenant, c'est lorsque quelqu'un se tourne vers Jésus, il crée en lui une créature nouvelle. Si quelqu'un est en Christ, Deuxième épître aux Corinthiens au chapitre 5, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et dans ce temps où Dieu a arrêté sa création, c'est un temps où il invite l'homme à le rencontrer. On verra ça plus tard dans les lois de Moïse, avec l'institution du sabbat, où Dieu appelle l'homme à cesser son travail un jour par semaine et à le rencontrer et à être en relation avec lui. Dieu consacre du temps à sa créature et il demande à sa créature de lui consacrer du temps. Je vous invite à conclure. La création exprime donc la gloire, la grandeur de notre Dieu. Quand on y réfléchit, qu'on regarde la création avec un microscope de plus en plus puissant, c'est-à-dire qu'on va regarder ce qu'il y a de plus en plus petit. Et puis quand vous avez trouvé quelque chose, si vous regardez encore, ce quelque chose, il est constitué de d'autres choses. Et puis si vous regardez encore, les autres choses, elles sont encore constituées d'autres choses. On a l'impression que c'est inépuisable. C'est comme les poupées russes, mais puissance 10 000. Hein? Et puis, quand on regarde l'infiniment grand, on est aussi étonné. Mais un univers tellement vaste que ça défie notre imagination. Le psaume 19 dit « Les cieux racontent la gloire de Dieu, l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. » Et je suis persuadé que quand celui qui a écrit le psaume a écrit ça, il ne pensait pas que l'étendue, elle était si étendue que ça. Hein? Un jour instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit, ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles. Le son n'est pas entendu et pourtant leur retentissement parcourt toute la terre. Leurs accents vont aux extrémités du monde. Les cieux racontent la gloire de Dieu. Le fait qu'il parle, qu'il se soucie de sa créature au point d'en faire son image, cette image avec laquelle il va dialoguer, tout cela nous raconte aussi son amour. Il n'a pas fait une créature pour s'en désintéresser. Il a fait une créature pour être en relation avec elle. Son amour pour les hommes, pour les femmes que nous sommes. Et puis le fait que tout soit bon. Il n'a pas créé un monde brinque-ballant, un monde qui allait de travers. Il a créé un monde où tout était bon. Nous montre aussi sa bonté, sa perfection. Nous pouvons donc commencer à connaître Dieu rien qu'en regardant sa création. Connaître Dieu en voyant sa bonté, en voyant sa grandeur, en voyant le fait que tout est parfait, en voyant aussi le fait que Dieu parle aux hommes et se révèle à eux. Donc, déjà rien que la lecture de ce premier chapitre de la Genèse nous apprend beaucoup de choses sur Dieu. Et c'est ce que dit Paul, et on va conclure en lisant ce texte, dans l'Épître aux Romains, tout au début, au chapitre 1er, qui dit « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété, toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. » Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on le considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu et ne lui ont pas rendu grâce. Ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. La Bible nous apprend, hélas, que les hommes ont plutôt fait le choix opposé. Ils se sont éloignés de ce Dieu si grand, si puissant, si bon, si aimant. C'est ce que la Bible appelle le péché. La Bible nous l'apprend, la vie de tous les jours nous l'apprend aussi. Nous avons des gens très savants autour de nous qui savent tout de la création. Enfin, pas tout à fait, parce qu'en général, ils se spécialisent, donc ils savent tout sur un domaine. Et ils ne sont pas émerveillés de ce qu'ils découvrent. Quand j'ai fait mes études de médecine, j'étais émerveillé par ce qu'on m'a appris. Parce que je voyais partout la main du Créateur et la perfection de cette machine que nous sommes et que Dieu avait créée. Et le fait que plus on l'étudie, et plus il y a encore des choses à étudier. On a l'impression que c'est sans fond, qu'on ne pourra jamais tout connaître. D'ailleurs, vous voyez ce qui se passe. Maintenant, il n'y a plus un médecin qui est capable de tout faire. Moi je suis généraliste, mais bon, il y a des éminents cardiologues là. Et puis si vous regardez les cardiologues, maintenant il y a ceux qui font du rythme cardiaque, il y a ceux qui font de l'échographie, il y a ceux qui font... Bon, hein, il y a les hyper spécialistes. Et puis ça ne fait que commencer. Si le monde continue comme ça, bientôt il y aura un spécialiste de l'oreille droite et un spécialiste de la narine gauche. Parce que cette création est tellement vaste qu'on ne peut pas l'englober tout entière. Ce n'est pas possible. Dieu nous dépasse tellement et pourtant il est bien plus grand encore que sa création. Cet orgueil des hommes les a entraînés à leur perte. Ne faisons pas ce chemin-là, mais soyons émerveillés par la création de Dieu qui nous apprend à bien le connaître. Heureusement que dans sa miséricorde, Dieu a envoyé Jésus, venu pour régler ce problème du péché, de l'orgueil des hommes, de la déchéance des hommes, et de nous redonner la possibilité de nous tourner vers Dieu et de redécouvrir combien il est merveilleux.